Il y a deux choses que Catherine au bureau déteste. Les chats puis le yoga. Alors, dans le bureau, on a un beau calendrier de chats qui font du yoga. Vous écoutez dans le champ lexical. Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on prend un mot, on vous gonfle une balloune avec et on la pète pour voir qu'est-ce qui va sortir de là. Au menu, reportage, chronique, lecture, chanson thème et fin du monde. Cette semaine, le mot c'est calendrier.
Doit-on vraiment expliquer ce qu'est un calendrier? Depuis le 17e siècle, on définit calendrier comme étant le livre ou la table qui contient l'ordre et la suite de tous les jours de l'année. Dans quelques instants, on va voir un astrophysicien et un spécialiste du temps pour nous dire d'où vient le calendrier. Alors je l'expliquerai pas plus. Je vais néanmoins vous lire un passage du livre « Le calendrier, maître du temps » de Jacqueline Bourgoin, où on explique l'origine des noms des mois. C'est une histoire qui remonte à un ou deux siècles avant Jésus-Christ. Janvier était le mois de Janus, dieu des commencements, dieu aux deux visages, l'un qui se tourne vers l'année écoulée, l'autre vers le début de la nouvelle année. Février, le mois des morts, était consacré aux purifications. En latin, februar signifie purifier. Mars renvoyait au dieu du même nom et marquait le début de la saison guerrière. Avril était le mois de Vénus, probablement du nom étrusque d'Aphrodite, Apru. Mai, celui de Maïa, déesse de la croissance, et aussi le mois des Maïors, les anciens. En juin, on fêtait Junon et aussi les jeunes. Les derniers mois de l'année portaient des numéros correspondant à leur place dans le tout premier calendrier romain qui débutait en mars. Donc, Quintilis, Sextilis, September, October, November et December.
Robert Lamontagne, astrophysicien. Je suis aussi le directeur exécutif de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Notre calendrier, il tire son origine extrêmement loin dans le temps. C'est un calendrier qui remonte en partie aux Babyloniens, qui eux avaient un calendrier lunaire solaire. Ils avaient mesuré la longueur du cycle des saisons, donc d'une année. Pour eux, c'était 360 jours et ça correspondait à 12 cycles de lune qui durent à peu près 30 jours. Donc 12 x 30, 360. On retrouve la corrélation des 360 jours avec les 360 degrés du cercle. Les Babyloniens comptaient avec un système sexagésimal au lieu de décimal. Le nombre 60 jouait un rôle important chez eux pour plusieurs raisons, parce que ça se divise par 1, parce que ça se divise par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. Alors, parce que c'était un nombre qui se divisait facilement par plusieurs autres, ils utilisaient un système à base 60. Et ce calendrier a été transmis en partie chez les Égyptiens, qui, eux, ont réalisé qu'il n'y avait pas 360 jours dans une année, mais il y en avait 365. Donc, ils ont rajouté des jours à chacun des mois. On est passé de mois de 30 jours à mois de 31 jours, et un mois spécial qui avait 28 jours. Éventuellement, on a introduit le calendrier, l'année bissextile, à peu près à l'époque de Jules César, qui s'intéressait à faire une réforme du calendrier. Parce que dans tout l'Empire romain, chaque région avait sa propre durée de l'année. C'était voté au gré des sénateurs, par exemple. Donc, il y avait des considérations politiques et économiques pour déterminer la longueur d'une année. Et ça devenait compliqué d'administrer l'Empire avec plusieurs calendriers. Jules César a donc imposé un calendrier unique qui s'appelle le calendrier julien, qu'il a emprunté aux Égyptiens avec des années de 365 jours plus l'année bissextile, donc 3 ans de 3 ans à 365 jours et une quatrième à 366, parce que ça correspondait véritablement au cycle des saisons. Le calendrier julien a été transmis à l'ère chrétienne. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite subtilité. La durée d'une année, c'est pas 365 jours et un quart. Donc, 3 fois 365 plus 366e jour. Mais c'est un petit peu plus court que ça. Alors, il fallait avoir un calendrier qui a des années bissextiles à tous les 4 ans, mais en sauter quelques-unes. La réforme a été introduite par Grégoire XIII en 1582. Le calendrier que nous utilisons s'appelle maintenant un calendrier grégorien. Il a 365 jours, 3 années de 365 jours, une année de 366 jours à tous les 4 ans, sauf quand on arrive au passage du siècle. Donc, par exemple, si on passe de 1999 à 2000, à 2001, l'année 2000, c'est une année bissextile. Mais si on remonte un siècle en arrière, si on passe à 1898, 1899, 1900, 1901, 1900, qui aurait dû être une année bissextile, a été escamoté. On a eu 7 années de 365 jours, on en a sauté une, puis ensuite on est revenu aux années bissextiles. Alors, à tous les 400 ans, tous les passages de siècle, il y a 3 années bissextiles qui sautent. Toutes celles qui ne se divisent pas par 400 ne sont pas des années bissextiles. Et ça permet de coller le calendrier, l'écoulement du temps dans un calendrier, exactement avec le cycle des saisons. Ce qui fait qu'on est garanti que le solstice d'été, l'équinoxe de printemps, tout ça, ça arrive exactement. Le cycle des saisons correspond exactement au phénomène astronomique dans notre calendrier. Donc, on a un calendrier grégorien qui est une variation sur le calendrier julien, qui lui-même est une variation sur le calendrier égyptien et le calendrier babylonien. Notre calendrier à nous remonte à 3000 ans dans le passé, là, facilement. La tradition chrétienne qui s'est élaborée après la chute de l'Empire romain. Et donc, on a hérité du calendrier julien, mais on a remplacé graduellement les fêtes païennes romaines par des fêtes religieuses chrétiennes. L'exemple le plus frappant, c'est Noël. On célèbre donc la naissance du Christ au 25 décembre. Alors que, d'un point de vue historique, indépendamment de la date de la naissance du Christ, les descriptions nous indiquent clairement que le Christ est né quelque part au printemps parce que les bergers étaient en train de surveiller leurs troupeaux. Ça ne se faisait pas en décembre, c'était clairement là, au début du printemps. Alors, les chrétiens ont reporté la date de la naissance du Christ au 25 décembre pour la faire corréler avec une fête païenne qui était le retour de la lumière. C'est tout de suite après le solstice d'hiver. Les jours recommencent à allonger, donc pour des raisons évidentes là, d'associer la lumière du Christ à la lumière du soleil qui revient. Puis il y avait aussi des raisons pratiques. Lorsque les Romains célébraient le retour de la lumière, donc les fêtes du solstice, ils avaient moins tendance à persécuter les chrétiens dans ce temps-là. Donc les chrétiens célébraient donc la naissance de leur sauveur, du Christ. En même temps, ils avaient la paix. Ils pouvaient célébrer presque à visage découvert à ce moment-là. Ça paraissait pas trop. Alors, on a graduellement, comme ça, remplacé les fêtes païennes par des fêtes religieuses. Disons que l'Église catholique a eu une emprise assez forte sur la vie de l'Occident et sur tous les aspects de la vie, le calendrier y compris. Donc, ils ont collé des fêtes religieuses. Je pense qu'il n'y a même pas assez de jours dans l'année pour célébrer tous les saints. Alors, il y a même le 1er novembre, c'est la Toussaint. C'est la fête de tous les saints qui n'ont pas de journée particulière, finalement. En 325 de notre ère, encore une fois, on a voulu accoler tant du point de vue de la naissance du Christ avec le retour de la lumière, le solstice d'hiver, on a voulu associer la résurrection du Christ avec la renaissance de la nature, donc le fait que le printemps revienne, la nature revient à la vie. Et pour s'assurer de ça, pour qu'on colle le dimanche de Pâques le plus près possible de l'équinoxe du printemps, donc du début du printemps, on a utilisé un phénomène astronomique. La date de Pâques est toujours célébrée, c'est le premier dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Alors, on regarde dans un calendrier, l'équinoxe du printemps est au 21 mars, le cycle de la lune, on regarde la première pleine lune dans le cycle suivant, et le dimanche après, c'est Pâques. Alors, si la pleine lune arrive le 21 mars, ben, le premier dimanche qui vient après le 21 mars, c'est Pâques. Mais si la pleine lune arrive le 15 avril, ben, le premier dimanche qui suit, ça va être Pâques. Mais donc, Pâques arrive plus tard en avril. Alors, le dimanche de Pâques, il bouge comme ça. Cette fête religieuse, elle est liée au renouveau printanier, mais ça fluctue au gré du cycle lunaire. Ce qui est une influence juive aussi. Les Juifs avaient un calendrier lunaire. Donc, la Pâque juive était déterminée en fonction de la lune. Les chrétiens ont conservé cette tradition.
Dans notre ère de pilules et de condoms, la technique de contraception dite « du calendrier » ne peut pas sembler plus archaïque. Déterminer quand une femme va ovuler en comptant les jours, c'est pas la technique la plus fiable au monde. Malgré tout, il y a encore des gens qui le font. Et Catherine, par exemple, l'a fait pendant un bon bout de temps.
Des années, je dirais en tout, au moins 6-7 ans.
Bon, ok, vous l'avez remarqué, c'est pas sa vraie voix. Puis, bon, ben Catherine, c'est pas son vrai nom non plus. C'est seulement que, comme elle le dit...
J'ai pas honte de pratiquer cette méthode-là, j'ai juste pas super gros envie de parler de mes méthodes de contraception publiquement, en fait, surtout.
On parlerait du stérilet, tu demanderais la même chose.
Oui, exactement. Puis j'en parlerais pas sur Facebook, tu sais. genre.
Donc, Catherine, non fictif, utilisait la méthode du calendrier. Pourquoi?
Écoute, quand il n'y a rien d'autre qui fonctionne, j'ai passé à travers toute la panoplie de sortes de pilules, puis rien qui faisait, il y avait toujours des problèmes qui découlaient de cette prise de pilules-là. Puis j'ai jamais été capable de toffer non plus le condom, on s'entend qu'à long terme, ça finit par prendre le bord, voilà. Puis le reste aussi, là, tous les autres trucs mécaniques que vous pouvez imaginer au niveau de la contraception, fait qu'à un moment donné, ça s'installe un peu, ça devient un peu ton seul moyen, fait que c'est ça. Mais ça fonctionnait pour moi, je veux dire.
Est-ce que ça s'accompagnait d'angoisse?
Ben oui, quand même, parce que t'as toujours un doute si t'as du retard, parce qu'il y a quand même une moyenne de une fois par année où t'ovules pas dans la période où t'es supposé, tu sais. Fait que tu sais jamais si ça s'est passé au mauvais moment, puis si... Mais c'est sûr que moi, toute la période où j'ai pratiqué ça, ça aurait pas été si dramatique que si j'avais pas 16 ans. J'aurais pu garder la... Tu sais, je voulais avoir des enfants éventuellement. Fait que ce risque-là était quand même pas trop épouvantable. Tu joues un peu à la roulette russe, mais t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de trous qu'il n'y a pas de balles dedans, mettons.
Parce que, est-ce qu'il faut être bon dans la tenue de calendrier, justement? Parce que moi, j'oublie tout le temps la date qu'on est... Je passe tout le droit de mes rendez-vous, je suis jamais calorié.
C'est pas si compliqué, mais mettons que les nouvelles technologies aujourd'hui nous facilitent la vie. T'sais, j'ai une application. Une application pour savoir quand est-ce que je vais, tu sais, dans mon iPhone. Pis,
C'est ça, ça
existe. Ben oui, ça existe. Il y en a plein. Il y en a toute une panoplie. Il y en a qui sont plus orientés pour quand tu veux faire un bébé, puis d'autres pour savoir quand tu veux être menstrué. Fait que ça peut être pratique parce que ça fait un suivi de toi. Tu peux rentrer tous tes symptômes que tu as chaque jour reliés à tes hormones. Puis à un moment donné, il est vraiment capable de fitter puis de dire à peu près quand tu vas ovuler. Fait que bon, je te dirais que ça aussi, là, ça laisse ses limites, mais au moins, ça te permet de gérer l'aspect calendrier de cette technique. En fait, si vous êtes capable de prendre la pilule, faites ça, c'est vraiment moins compliqué. C'est moins dangereux. Mais c'est vraiment pas une méthode efficace. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos, parce que ma mère existe à cause de la méthode du calendrier. Ils sont plusieurs, mais surtout que ma grand-mère avait compris l'inverse. Elle en a eu 5 avant de catcher. Non, c'est pas vrai, mais... Donc, je recommande absolument pas.
Fraternité, mais pourquoi? Il faut chanter. Parce que on aime.
Mardi.
2.
Mercredi, dimanche.
3.
Café au lait.
5. 7. 11.
Sucre.
13.
Vendredi, mardi.
17.
Soupe.
19.
Savon.
23.
Chaleur.
29. 37.
Grapefruit.
43.
Lundi.
47.
Potage.
53. 59.
Marche lundi.
61.
Syrup.
67.
Zucchero.
71. 73.
Café crème.
79. 83.
Bien des chanteurs semblent accorder une place de choix à leur calendrier et au mois qu'il contient pour signaler les événements marquants de leur vie ou alors pour faire des projets à plus ou moins long terme. Par exemple, en 1961, le chanteur américain Neil Sedaka chante Calendar Girl, dans laquelle il nous déclare son amour pour les filles qui correspondent à tous les mois de sa vie. Par exemple, la fille de février est, on s'en doute, sa petite Valentine, tandis que celle d'avril est son petit lapin de Pâques. Un an plus tard, en 1962, la chanteuse yéyé française d'origine bulgare Sylvie Vartan et reine des reprises, accessoirement, pousse la note sur une version en français de cette Calendar Girl. Pour l'occasion, elle devient tout au long du calendrier et on entend la chanteuse y dire qu'en février, on s'aime dans la neige, en avril, on va à l'hôtel tous les deux, en juin, c'est du pareil au même et en septembre, on soigne son rhume ensemble, bon.
Oui, c'est ma destinée. Je t'aime, t'aime tout au long du calendrier. Chaque jour, chaque nuit de l'année.
Mais parmi tous les mois du calendrier, c'est pas mal le mois de septembre qui semble à première vue le plus inspirer nos chanteurs. On pense par exemple à la chanson « C'est en septembre » du français Gilbert Bécaud, où les oliviers baissent les bras et les raisins rougissent du nez.
C'est en septembre quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai.
Et dans un registre, disons, plus festif, souvenons-nous en 1978 de la chanson September du groupe américain Earth, Wind & Fire, un mois idéal pour danser parce qu'il n'y avait jamais de jour nuageux. Dans les années 40, Jacques Prévert écrit les paroles de la chanson « Les feuilles mortes » sur une musique de Joseph Kosma. Ce qu'on sait moins, c'est que les feuilles dont il est question, et qui se ramassent à la pelle, ne sont pas des feuilles d'arbres, mais bien des pages de calendrier qu'on déchire une fois que la journée est passée.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.
Mais aujourd'hui, dans le champ lexical, a choisi une chanson de Robert Charlebois, dans laquelle il est question du printemps, et plus précisément du quatrième mois du calendrier traditionnel, c'est-à-dire le mois d'avril. Il s'agit de la chanson « Avril sur Mars », que le chanteur a sortie en 1987. Charlebois y raconte qu'il s'ennuie de sa bien-aimée, qui s'est enfuie sous les tropiques il y a 3 mois. Il se demande si elle va bien finir par revenir à Pâques ou à la Trinité. Pendant ce temps-là, il frissonne entre ses draps rayés et serre très très fort son oreiller pour se faire croire que c'est elle l'espace d'un moment. Il termine la chanson avec un très bon flash, nous disant qu'ils vont bien finir par se rendre dans les Laurentides pour passer avril sur Mars. Mais on pourrait être tenté d'y voir là une sorte de double sens, c'est-à-dire autant la planète Mars que le mois du même nom, celui qui arrive tout juste avant, justement, le mois d'avril. Voici donc « Avril sur Mars » de Robert Charlebois.
Pourquoi Miss Musique t'es-tu sauvée sous les tropiques? Depuis bientôt 3 mois, tu ne dors plus près de moi. Si tu ne reviens pas, qui prendra soin de moi? Qui quittera mes pas? Qui partagera mes repas? Ce soir, j'ai le cœur plein de larmes. Je m'en irai si j'avais une âme. Entre mes draps rayés, et je serre très fort ton oreiller, comme si c'était toi, comme si c'était toi, entre mes bras. À Pâques ou à la Trinité, ou ne reviendra pas, et ce sera l'été. Je m'enfonce dans l'enfer blanc, malgré mes violons en fer blanc. Mon piano allemand et ma fusée d'argent. remplacer mes cordes cassées. Revu l'Iliade et l'Odyssée. Passer mon temps à te chercher, à te perdre et à te retrouver. Mais ce soir, j'ai le cœur plein de larmes. Je m'en irais si j'avais une âme. Je frissonne entre mes draps rayés. Et je serre très fort ton oreiller. Comme si c'était toi. Comme si c'était toi. Entre mes bras. Tu reviendras à Paris. Ou à la Trinité. Ou ne reviendras pas. Et moi je t'attendrai. Bien à l'abri du temps. En canon sur les temps. Dans les Laurentides. Solide comme une pyramide. Sous les aurores boréales. Nous irons passer avril sur Mars.
Nous, simples judéo-chrétiens, calculons nos jours avec un certain temps préétabli, avec le calendrier grégorien, en termes d'années contenant 12 mois, qui contiennent grosso modo 4 semaines, qui contiennent plus ou moins 30 jours, de 24 heures, 60 minutes, 60 secondes, ou, en termes de chocolat, un mois avant Noël. Aujourd'hui, pour nous, c'est le 18 octobre. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. Parce que, dans le calendrier hébreu, on est le 20 Tichri 6772. Dans le calendrier islamique, on est le 0 Dhu Iqada 1432. Dans le calendrier perse, on est le 26 Mer 1390. Et dans le long calendrier maya, on est le 12, 19, 18, 14, 10. Alors, vous avez peut-être aujourd'hui quelque chose comme 10 952 crch. Donc, je vous conseille d'aller tout de suite vous acheter de la crème antirides. On entend en ce moment l'audio d'un reportage de Montréal.tv sur le lancement du calendrier des pompiers 2010, dont tous les profits étaient remis aux grands brûlés. La plus grande partie du topo consiste à montrer des pompiers musclés faisant des acrobaties de danseurs de 2,81 pendant que les femmes hurlent à la vue de leurs pectoraux.
Alors qu'elles ont des impressions sur le défilé, c'était fantastique, les gars étaient vraiment beaux, ils ont donné un bon show!
Les pompiers sont les seuls qui peuvent encore lancer un calendrier sexy sans soulever la controverse. Imaginez, un calendrier des secrétaires sexy du Québec, profit remis aux arthritiques.
Alors, Marc-Claude, comment t'as trouvé la soirée? Vraiment éclatante. Les gars sont beaux, l'ambiance est vraiment le fun. Le bar est juste bien fait, c'est vraiment exceptionnel.
Si vous êtes un amateur d'abdominaux de pompiers ou simplement un collectionneur de calendriers, le lancement du calendrier 2012 des pompiers se fera le 10 novembre au Centre des sciences. Les billets sont 30 $ et encore une fois, les profits seront remis à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.
Comme vous le savez sans doute, le calendrier Maya arrêtera en 2012. Est-ce la fin du monde ou alors le graphiste de l'époque a manqué de place pour les autres dates? Bonjour, est-ce que vous connaissez le calendrier Maya?
Non, je ne connais pas le calendrier Maya.
Le calendrier Maya, non.
Celui qui finit en 2012?
Ah oui.
Le calendrier Maya, qu'est-ce que c'est ça?
Le calendrier des Mayas, ben c'est avec les astres, puis la croyance, puis le soleil, alors...
C'est le calendrier qui arrête en 2012.
Oh! Tu me fais peur pour rien.
Vous n'avez pas peur que la fin du monde arrive en 2012?
Non.
Ben, attends, je pensais que c'était aujourd'hui.
Ah! Ça, c'est pas pour demain?
C'est juste avoir recommencé.
Tout simplement.
Oui, parce que le dernier, ils ont dit que c'était finissé en 2000, je crois.
Ouais. C'est pas la première prédiction qui se passe pas, alors...
Moi, ce que je pense, c'est qu'après avoir essayé de nous faire peur avec le bug de l'an 2000, qui a complètement foiré, hein, y a personne qui a eu mal nulle part, le calendrier Maya, écoute, on s'en fiche.
Ils pourraient juste prédire assez loin dans le futur, je veux dire, c'est des années 600 AD, ça, les Mayas, alors prédire jusqu'en 2012, ce sont années.
Ou le chat boursier, en part comme
ouais,
ça, puis c'est rien passé.
C'est rien passé. Moi, je pense qu'il va se rien passer. Le monde s'inquiète pour rien. Moi, personnellement, le monde s'inquiète pour rien.
Non, je suis pas chien du tout. Ben, courageux, non, parce que c'est pas la première prédiction qui se passe pas.
Est-ce que vous faites des projets pour 2013?
Oui.
Non, pas pour la fin du monde, mais pour mes projets futurs.
OK. Ouais. Mais là, c'était en 2013, c'était dans la merde, là.
Non, je ne crois pas.
Non, j'ai pas peur pantoute. Non. Oh, la fin du monde? Non.
S'inquiète pour rien. Moi, personnellement, le monde s'inquiète pour rien.
Ils l'ont fait avec ce qu'il y avait. Nous autres, on a fait notre calendrier moderne avec ce qu'on a.
Avec des photos de pitoute?
Ben non, avec des congés, puis 7 jours par semaine, puis 24 heures. Alors, c'est un calendrier moderne.
OK, fait que qu'est-ce que tu penses qui va arriver après 2012?
2013.
Est-ce que vous avez des plans pour 2013?
Pour les Mayas, en fait, ils ont plusieurs calendriers. Les calendriers servent à différentes choses. Et vous avez tout à fait raison, ils n'ont pas de calendrier au sens où nous, on le conçoit. C'est-à-dire, par exemple, un truc qu'on colle sur le mur ou la porte de notre bureau et puis on tourne les pages. Ils n'ont même pas une représentation de calendrier sous la forme de roues ou même de gravures.
Pour nous parler de fin du monde, à nouveau, Robert Lamontagne, astrophysicien et directeur exécutif de l'Observatoire du Mont Mégantic.
Le calendrier, pour eux, ce sont des notes écrites. Il y a des dates à signer. On a construit des représentations du calendrier Maya pour pour mieux comprendre, mais jamais ils n'ont eu un instrument qu'ils pouvaient manipuler qui était un calendrier au sens où nous, on l'entend. Chez les Mayas, eux, ils avaient conçu des calendriers distincts. Ils avaient le calendrier agricole ou le calendrier civil qui s'appelle le Ahab. Et ça, c'est l'équivalent de notre calendrier conventionnel. Dans le Ahab, il y avait 365 jours. Donc, c'est tout à fait similaire au nôtre. Ça servait à organiser les activités sociales, économiques de la société. Quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on va récolter. Donc, c'était le calendrier standard qui suit le cycle des saisons, finalement. Et ensuite, ils avaient une série d'autres calendriers qui étaient plus ou moins consacrés à des phénomènes astronomiques et à des phénomènes religieux. Le deuxième grand calendrier dans leur civilisation, c'est un calendrier qui s'appelle le Tzolk'in, qui a 260 jours. Et chacun des jours est associé à une fête ou à une divinité ou à une activité religieuse. Et pour les Mayas, comme ils ont un calendrier de 365 jours civils et un calendrier, disons, religieux de 260 jours, ils cyclaient constamment là-dedans. On commence les deux calendriers à la première date dans le Ahab, le premier d'une année dans le Ahab et le premier dans le calendrier religieux, et on cycle. Le lendemain, dans le calendrier Ahab, c'est la fête suivante dans le calendrier religieux, le troisième jour. Alors, on cycle comme ça. Évidemment, quand on arrive au bout du calendrier religieux à 260 jours, on n'a pas terminé le calendrier civil. Alors, on recommence le calendrier religieux. D'une façon imagée, c'est comme si pour nous, il n'y avait pas eu une fête religieuse associée à toutes les dates de l'année. Et donc, on pourrait, par exemple, avoir Noël deux fois dans l'année. On pourrait cycler, les enfants aimeraient ça, là, probablement. Les parents, un peu moins. Mais donc, on aurait quelque chose comme ça. Pour les Mayas, tous les jours de l'année sont différents tout au long de leur vie parce que le plus petit dénominateur commun à 260 jours et 365, c'est 52 années civiles. Et ça, c'est ce qu'ils appelaient le cycle sacré. Donc, 52 ans. Évidemment, ils avaient besoin d'un calendrier plus long. Les scribes, ceux qui tenaient les registres de la société, ils avaient besoin, ils comprenaient bien que 52 ans, c'est pas suffisamment long pour dater des événements. Il s'est passé des choses avant, il va se passer des choses plus loin, on doit se projeter plus loin dans le temps. Alors, ils ont construit un calendrier plus complexe basé là-dessus, dans lequel il y a 1 872 000 jours. Si on divise ça en années, là, ça fait à peu près 5125 ans. Et ça, c'est ce calendrier extrêmement long qu'on appelle le compte long chez les Mayas, de 1 872 000 jours. C'est ce calendrier qui, en principe, vient à échéance en décembre 2012. Donc, il aurait commencé en 3113 avant Jésus-Christ, longtemps avant, ils ont mis le point d'origine, longtemps avant même l'existence de la civilisation maya, ils l'ont mis loin dans le passé. Et pour eux, après 1 872 000 jours, le cycle se termine, mais il y en a un autre qui recommence. Pour eux, ce n'est pas la fin du monde. Chez les Mayas, le concept de fin du monde n'existe même pas. L'univers est cyclique. Alors, c'est un grand cycle et il y a un nouveau cycle qui recommence. On pourrait faire la même chose. On fait la même chose chez nous. Vous regardez votre calendrier accroché sur le mur, vous arrivez au mois de décembre, puis vous avez le 28, le 29, le 30, le 31 décembre. Il n'y a personne qui s'inquiète. On sait très bien qu'on change le calendrier. Il y a un 1er, un 2, un 3 janvier de l'année suivante. Même, on retrouve des textes mayas et des hiéroglyphes mayas qui mentionnent des événements qui vont se produire dans le prochain cycle. Il était clair là, qu'il se projetait très loin dans le futur. Il n'y avait pas de fin du monde. En fait, ce qui est assez amusant dans toute cette histoire de calendrier maya et de ce fameux compte long qui vient à échéance, dans tous les documents mayas qu'on a décodés à ce jour, ça fait à peu près une quarantaine d'années, là, disons, qu'on arrive à lire l'écriture maya, on a près de 10 000 textes décodés, relativement bien interprétés, parce que c'est un style assez, je dirais, fleuri. C'est une vieille civilisation. Ils avaient une façon là, d'écrire et de parler. Dans tous les textes qu'on a décodés, il y en a un seul sur les 10 000 qui parle du fameux compte long de 1 872 000 jours. C'est le seul. Et nulle part, c'est mentionné qu'il arrive à la fin du monde. Alors, le mythe de la fin du monde est littéralement une création moderne, contemporaine, qui remonte à la fin des années 70, début des années 80. Ce sont des chercheurs, je dirais, plus ou moins qualifiés, ou des interprètes plus ou moins qualifiés de la langue maya, qui ont, je dirais, projeté des choses de leur cru dans une série d'interprétations. Et donc, ils ont étiré un peu la sauce, parce que nulle part, les Mayas ont parlé de la fin du monde. Mais eux, fin d'un cycle, ils ont associé ça avec fin du monde. Et donc, les Mayas auraient prévu la fin du monde, ce qui est un peu farfelu, je dirais, pour être poli. Pour une raison quelconque, on a cristallisé ça autour de 21 décembre 2012. Il y a 21, 12e mois, 2012, donc 21-12-12. Le 21, c'est le solstice d'hiver aussi. Alors donc, pour des raisons, je dirais, pseudo-mystiques, les gens ont collé le 21 décembre 2012. Mais bon, il n'arrivera rien. Moi, je sais, on peut faire des prédictions. Il s'est fait beaucoup de prédictions sur les événements qui arriveront le 21 décembre 2012. Moi, je peux en faire une pour le 22 au moins. Le 21, je sais pas ce qui arrive, mais le 22, je sais que moi, je suis dans les centres d'achat à magasiner mes cadeaux de Noël. Là. Je veux dire, et c'est ce que tout le monde va faire, finalement, le 22 décembre. Il n'y arrivera absolument rien. Alors, la fin du monde n'arrive pas en décembre 2012, mais on peut être certain d'une autre chose aussi, c'est qu'il va y avoir d'autres prédictions pour 2013 ou 2020 ou 2029. Il y a toujours des mythes de fin du monde là, qui vont arriver.
Bonne semaine, ici Sonny Duval en direct du champ dans le... Bonne semaine, ici Sonny Duval en direct du... Voyons. Bonne semaine, dans le cadre de l'émission Le champ dans... Oui, je sais. Ici Sonny Duval pour l'émission Dans le champ lexical, avec cette semaine une chanson sur le calendrier. Je te mets à l'horaire, tu es sur mon cas, mon calendrier. Je suis sûr d'être certain que je t'ai inscrite à la bonne journée, mais j'ai manqué notre rendez-vous car je t'ai inscrite dans mon calendrier de l'année passée.
Contente cette semaine de vous parler d'un de mes livres préférés, qui est porté selon moi par une écriture grandiose et brillante de la Québécoise Anne Hébert, Les Fous de Bassan, paru en 1982. L'histoire se passe à Griffin Creek, un minuscule village protestant et anglophone qui est situé près du fleuve. Tellement minuscule qu'en fait, seulement 4 familles y vivent, collées les unes aux autres. Il s'agit des Atkins, des Brown, des Jones et des McDonald. Quelque chose de malsain flotte dans l'air, on le sent dans les personnages. Chaque personnage va raconter sa version un peu de cet événement. Et donc, c'est une date tragique pour Griffin Creek, sur lequel est articulé le livre. Il a suffi de l'espace d'un seul été, d'un de ces courts étés de par ici, rogné aux deux bouts par le gel. 2 mois à peine pour que Nora et Olivia Atkins sortent de l'enfance, se chargent de leur âge léger et disparaissent sur la grève de Griffin Creek le soir du 31 août 1936. Le retour de Stevens Brown et la féminité naissante et appétissante des cousines Nora et Olivia Atkins, qui, elles, tombent amoureuses de lui, bouleverse le fragile équilibre de Griffin Creek. Et dans ce village-là, où le même sang circule dans les veines de tous à cause de la consanguinité, celui des cousines va se répandre le 31 août 1936. Et le fait que ce soit l'été est vraiment symbole de jeunesse. C'est pas pour rien si les deux cousines disparaissent à la fin de cette saison-là. Et on dirait même dans le roman que l'été resplendit avec une sorte d'énergie du désespoir en sachant ce qui va arriver par la suite. De jour en jour, la lumière change, s'achemine vers l'automne. Certains instants de fin d'été, dans ce paysage âpre, atteignent une plénitude incroyable, une précision folle. Chaque sapin noir, fouillé de lumière, ses moindres branches, ses aiguilles, détachées de ses voisins, rendues uniques par la lumière qui le saisit à bras le corps, le presse et l'exprime, l'exalte sur le ciel d'un bleu cru, tandis que le bleu du ciel bascule sur la mer, à grande foulée bleue, frangée de blanc. Au-dessus de la mer, entre la mer et le ciel, tendue comme une bâche remuante et vrombissante, une multitude d'oiseaux, blancs, bruns, gris, aux cris assourdissants. Après cette date fatidique de 1936, la communauté n'est plus jamais la même. On dirait que c'est un peu de son sang qu'elle a perdu et elle est figée dans le temps, dans cette espèce de temps de l'horreur. Et tellement petite, tellement refermée sur elle-même qu'elle n'arrive pas à oublier. Des années plus tard, les jumelles Brown, qui sont les sœurs de Stevens, ont été employées par le pasteur Nicholas Jones. Et lui, il leur demande d'écrire sur les murs d'une galerie des ancêtres qu'il fait dans le presbytère. Et elles vont écrire cette date-là en boucle. Et c'est en boucle parce que la communauté est condamnée à revivre ce drame dans l'éternité. C'est carrément son châtiment à expier. Bousculant toute chronologie, s'inventant des grands-mères et des sœurs à foison, les jumelles découvrent le plaisir de peindre. Éclaboussées de couleurs de la tête aux pieds, elles s'extasient devant leurs œuvres. Prennent un malin plaisir, malgré ma défense, à faire surgir sur le mur, à plusieurs reprises, les petites Atkins. Pour ce qui est de la guirlande d'un noir de charbon, patiemment travaillée et déroulée, tout le long de la plainte, il suffit de se baisser et d'être attentif pour reconnaître des chiffres, toujours les mêmes, liés les uns aux autres en un seul graffiti interminable. 1936, 1936, 1936, 1936, 1936, 1936, 1936. Plus bas, en caractère plus petit, une seconde ligne, aussi régulière et obstinée, tout d'abord indéchiffrable. Été, 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 été. Tout un mur gâché. L'idée même de galerie sabotée, saccagée. Il ne fallait pas permettre aux jumelles de lâcher leur imagination dans la galerie des ancêtres. Ces filles sont folles. Non complètement idiotes comme leur frère Perceval, ni maléfiques comme leur autre frère Stevens, mais folles tout de même. J'aime les voir trembler quand je les réprimande, dans la cuisine, pleine de buée et de l'odeur persistante du linge bouilli. Ici, tout se lave et se savonne quotidiennement, comme s'il s'agissait d'effacer une tache sans cesse renaissante. Je vous laisse maintenant avec un extrait dans lequel Olivia, une des petites mortes, revient hanter les rives de Griffin Creek, captive dans un temps sans fin depuis la date du 31 août 1936. Il y a certainement quelqu'un qui m'a tué, puis s'en est allé, sur la pointe des pieds. Les haies d'églantine n'ont plus de parfum. Le jardin de Maureen est envahi par les mauvaises herbes, des roses blanches persistent contre la clôture, dégénérées et sans odeur. Les pommiers noirs et tordus sont tout à fait morts maintenant. Le jardin du pasteur sans l'ail et le poireau. La forêt se rapproche de plus en plus des maisons de bois, éparpillées, au milieu des champs en friche, où foisonnent les épilobes. Ma senteur forte de fruits de mer pénètre partout. Je hante à loisir le village, quasi désert, aux fenêtres fermées. Transparente et fluide comme un souffle d'eau, sans chair ni âme, réduite au seul désir, je visite Griffin Creek, jour après jour, nuit après nuit. Dans des rafales de vent, des embruns légers, je passe entre les planches mal jointes des murs, les interstices des fenêtres vermoulues. Je traverse l'air immobile des chambres comme un vent contraire et provoque des tourbillons imperceptibles dans les pièces fermées, les corridors glacés, les escaliers branlants, les galeries à moitié pourries, les jardins dévastés. J'ai beau siffler dans le trou des serrures, me glisser sous les lits sans couverture ni matelas, souffler les poussières fines, faire bouffer le volant de cretonne fané du cozy corner dans le petit salon de ma cousine Maureen, me faufiler toute mouillée dans les songes de mon oncle Nicolas, emmêler les tresses blondes des petites servantes de mon oncle Nicolas. Celui que je cherche n'est plus ici. Ah ça! L'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde. Il est arrivé quelque chose à Griffin Creek. Le temps s'est définitivement arrêté le soir du 31 août 1936. Dans le petit salon fermé qui sent la cave, l'heure immobile est affichée sur le cadran doré de l'horloge de ma cousine Maureen. Parmi l'abondance des napperons au crochet et les bibelots minuscules, l'écho de la demi de 9 heures persiste comme un songe dans l'air raréfié. 9h30. Je puis remonter le temps jusque-là seulement, à peine plus loin, jusqu'à ce que... Mes os sont dissous dans la mer, pareil au sel. Il est 9h30 du soir, le 31 août 1936.
Deceptively cold place, with the Alamany Gap darkening out your face, and the tempered glass of the Oakland hills flashes the sun back in flames from the windowsills. I could stay. I could stay, I could stay, I could stay here with you under the neon blue sky, pink clouds humming by, 'cause I don't have anywhere to be, there's no particular place for me.
Dans le champ lexical cette semaine. Restez sur les ondes de CIBL 101,5 FM pour l'émission « Le DJ est une ordure ». Vous pouvez attraper notre balado-diffusion sur iTunes et télécharger toutes nos émissions à danslechamplexical.com. On vous quitte cette semaine sur cette citation d'Elisabeth Von Harbour. L'histoire se fait au fil des calendriers, mais les histoires sont hors du temps.
Dans le champ lexical est une émission de Joanie Larue et Mathieu Charlebois. Nous ont aidé cette semaine Pierre Duchesneau aux chansons thématiques, Annie Rossano au vox pop, Sonny Duval à la chanson originale, Lisanne Roux-Leblanc aux extraits de romans et Chloé Barry à la recherche. Notre site web est le www.danslechamplexical.com et vous pouvez trouver notre balado sur iTunes. Revenez-nous la semaine prochaine pour le mot...
Exagération!